Shalom. Nous allons aujourd'hui commencer une étude très importante, fondamentale même, dirais-je. Nous allons étudier, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, du Tout-Puissant, le livre de Bereshit. En français, la Genèse. Le livre de Bereshit est fondamental parce qu'il est un des rares livres dans la bibliothèque juive qui parle de ce dont on ne parle pas d'habitude, c'est-à-dire l'identité d'Israël. C'est-à-dire, en général, ce que la Torah fait, la Torah nous dit ce qu'un juif doit faire. Ce que l'on ne dit pas en général, mais c'est quoi le juif qui doit faire. D'accord ? Quand par exemple, si je vous dis, il faut arroser le pommier. Arroser, c'est verser de l'eau. Mais c'est quoi un pommier? Il faudra me définir qu'est-ce qu'est le pommier. Alors, de même pour ce qui est de la Torah est adressée à une identité humaine déterminée, qui est l'identité d'Israël, et il faut savoir c'est quoi Israël pour savoir ce que dit la Torah. Sinon, on peut se planter. Par exemple, le texte que nous étudions fait partie d'un livre plus grand qu'on appelle la Bible, le Tanakh. La Bible est étudiée dans le monde entier. Et elle est comprise dans différents cercles humains de manière différente. Par exemple, lorsque vous prenez la Torah et que vous la donnez à lire à un Romain, à part le fait que probablement ils sont fous, ces Romains, mais si vous le donnez, vous donnez ce texte à lire à un Romain, par la force des choses, il y aurait une sorte de déterminisme culturel qui fait que ça va devenir du catholicisme. Si vous le donnez à un anglo-saxon, eh bien ça va devenir du protestantisme. Si vous le donnez, ce texte, vous le donnez à un russe, à un slave, ça va devenir du pravoslavisme, l'orthodoxie. Et si c'est un arabe qui le lit, alors ça devient, après différentes transformations, mais ça devient le Coran. Et si vous le donnez à un philosophe, ben ça devient de l'humanisme. Et si vous le donnez à un juif à lire, eh bien il y a des chances que ce soit la Torah. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre quel est le type de subjectivité humaine auquel ce texte s'adresse. Et il y a ici un travail énorme que nous allons devoir faire. C'est de restituer le sens originel du texte quand il est lu par un hébreu. Je vais donner un exemple tout bête. Le premier verset de la Torah, vous le connaissez? C'est quoi? Bereshit, bara, Elohim, itashamayim, vetaharetz. Traduction en français. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas la lecture juive, sans aucun doute. C'est-à-dire, quand vous lisez ce texte, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire que le texte vient m'informer que Dieu a créé le monde. N'est-ce pas? Mais si vous lisez la manière dont Rashi a lu le texte, et on va par la suite voir comment est-ce que Rashi a lu le texte, ça veut dire, c'est en faveur d'un commencement que Dieu a créé le ciel et la terre. Bereshit, dans le sens de Ba'avur Reshit. Le mot Reshit ne veut pas dire donc le commencement, mais veut dire un commencement. Et le bet de Bereshit ne veut pas dire au moment de, c'est pas dans le temps, mais c'est la finalité. Pourquoi est-ce que le ciel et la terre ont été créés? Donc vous comprenez que dans cette lecture-là, le fait que le monde a été créé par Dieu est une chose qui est supposée connue du lecteur avant même d'ouvrir le livre. Et la question que se pose le lecteur, c'est pas est-ce que le monde est créé ou pas. Ça, il le sait par ailleurs. D'où est-ce qu'il le sait? Ça, c'est encore à savoir. C'est probablement parce qu'il est hébreu qu'il le sait. Mais le lecteur veut savoir, mais pourquoi, dans quel but le monde a été créé? Alors on lui dit en faveur de Réchit. D'accord? Vous voyez que c'est un exemple tout bête, n'est-ce pas? Et on peut prouver que cette lecture est la vraie. Mais il y a tout un travail de transformation des concepts. Nous vivons essentiellement, nous sommes imbibés de culture chrétienne. Et donc quand nous lisons des textes de la Torah, quand nous entendons des notions de la Torah, Nous lisons ces notions-là comme si c'était des termes chrétiens. Par exemple, des mots tout bêtes comme Dieu. péché, repentir, loi, terre. Ce sont des mots tout simples, n'est-ce pas? Des mots dont nous nous servons. Eh bien, quand nous les lisons dans la Torah, il faut savoir qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque où les Juifs étaient encore des Hébreux, c'est-à-dire au temps de la Révélation. N'oubliez pas que ce texte a été donné aux Juifs, aux Hébreux, à l'époque où Dieu parlait. C'est-à-dire, il y a un phénomène qui a disparu de l'histoire, c'est le phénomène de la Révélation. Et donc, ces mêmes textes sont vécus différemment parce que nous sommes après l'époque où ils étaient véritablement vécus. Vous comprenez ce que je dis là? C'est très important de le comprendre. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire. Et dans ce texte-là, nous allons apprendre qui est Israël. Et là, ça m'amène une petite remarque supplémentaire. Quand nous parlons de Torah, il faudrait savoir qu'est-ce que l'on entend par là. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Et si vous posez cette question, je ne sais pas, il y a de gens, c'est quoi la Torah? Vous avez un éventail de réponses. Parfois, ce que je m'amuse à faire, surtout dans la section israélienne, c'est de poser cette question aux élèves. Je leur dis, c'est quoi la Torah? Et je reçois en général une quinzaine de réponses différentes, ou une vingtaine de réponses différentes, qui ont ceci de commun, c'est que toutes les réponses sont fausses, en général. Et donc, je vais vous faire grâce de ça, ne serait-ce que pour vous faire gagner du temps. Je vais vous dire d'abord ce que la Torah n'est pas. La Torah n'est pas une sagesse. On pourrait dire, la Torah, c'est une sagesse. Mais si c'est une sagesse, la physique nucléaire aussi, c'est une sagesse. En quoi la Torah serait différente, par exemple, de la physique? Ben, en rien. Et disons comme ça, la loi de la gravitation, découverte par Newton, qui fait que les pommes tombent. Ça, les pommes tombent. Où est-ce qu'elles tombent? Pas loin du pommier. Ça, la pomme tombe pas loin du pommier. Elle tombe en général sur la tête de Newton, endormie au pied de l'arbre. Quand la pomme tombe sur la tête de Newton, Newton découvre la loi de la gravitation. Il est possible qu'au passage, ça écrase une coccidelle, par exemple, qui se promenait sur la tête de Newton, pour ceux qui connaissent les bandes dessinées de Gottlieb. Mais ça appartient à une génération qui n'est plus. Et donc, quand Newton découvre la loi de la gravitation, il va faire une équation qui va nous expliquer que la gravitation est fonction de l'inverse du carré des masses. Et cette loi, elle est vraie, quel que soit l'homme qui l'a découverte. D'ailleurs, la loi de la gravitation était vraie avant même qu'on l'ait découverte. C'est-à-dire que les pommes tombaient sur les têtes des gens, bien que Newton n'était pas encore né, et bien que personne n'ait compris la manière dont ça marche. C'est-à-dire, la sagesse est quelque chose d'impersonnel. La pomme tombe, elle s'en fiche pas mal de savoir si on comprend la loi de la gravitation ou pas. Par contre, la Torah, elle n'est pas une sagesse. Parce que si la Torah était une sagesse, elle s'adresserait à n'importe qui. C'est-à-dire, toute personne susceptible de comprendre ce que dit la Torah appartient à la Torah. Mais la Torah, et là je vais vous dire qu'est-ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est une parole. C'est la parole du Créateur, c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un. Et donc, pour comprendre ce que dit la Torah, il faut savoir à qui elle est adressée. D'accord? Pour comprendre, par exemple, une phrase comme « Passe-moi le sel ». Vous connaissez cette phrase ?« Passe-moi le sel ». Pour vraiment comprendre ce que dit cette phrase, il faut se comprendre qui l'a dit et à qui. D'accord? Par exemple, ça prend un sens tout à fait différent. Si, par exemple, j'apprends brusquement que quand un tel a dit à un autre « Passe-moi le sel », ça faisait 3 jours qu'ils ne s'étaient pas parlé parce qu'ils étaient fâchés. Et donc, l'expression toute bête « Passe-moi le sel » signifie « Viens, rétablissons nos rapports ». Alors que ça pourrait très bien être autre chose. « Passe-moi le sel », la soupe est dégueulasse. D'accord? C'est-à-dire, il faut comprendre le contexte. le contexte humain, l'identité humaine dans laquelle cette phrase a été prononcée, alors là, on comprend ce que ça veut dire. Donc, étant donné que la Torah est adressée au peuple d'Israël, il faut savoir quelle est cette manière d'être homme qu'on appelle Israël pour comprendre ce que dit la Torah. Voilà, c'est donc un travail assez laborieux parce que ça fait déjà plusieurs milliers d'années que les choses ont changé et donc pour comprendre ce que ça veut dire, ça va demander un travail. Ça, c'est le premier point. Vous avez des questions jusqu'à présent ? Si vous n'en avez pas, c'est très bien, c'est que vous avez tout compris, nous allons donc passer au deuxième point. Le deuxième point est que lorsque nous étudions un verset de la Torah, c'est notre méthode dans notre étude, nous ne savons pas ce que dit le verset à venir. C'est-à-dire, quand j'étudie tel verset, je sais uniquement ce que dit le verset. Peut-être que je sais ce que dit le verset d'avant, mais je ne sais certainement pas ce que dit le verset d'après. Pour raison très simple, c'est que la Torah a été donnée verset par verset. Donc, pour vraiment comprendre ce que dit le texte, il faut comprendre ce que dit le texte. Et là, ça nous amène à une troisième règle, règle d'ordre général, qui est que si je veux savoir ce que dit la Torah, que dois-je faire ? Eh oh ! Vous avez une idée, là ? La question vous est adressée, cher public. Si je veux savoir ce que dit la Torah, qu'est-ce que je dois faire ? Là, vraiment ? Non, tout simplement, la lire. Voilà, lire la Torah. Et je sais que c'est révolutionnaire, parce qu'en général, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que dit la Torah, eh bien il se dit, attention, qu'est-ce que dit la Torah ? J'ai un grand chapeau, j'ai une grande barbe. Donc ce que je pense, c'est la Torah. C'est ce qu'on appelle une opinion personnelle que l'on prend pour de la Torah. Et il y a ici une surprise. Si nous voulons vraiment savoir ce que dit la Torah, eh bien il faut lire la Torah elle-même. Et après, bon, évidemment, ça peut entrer en conflit avec ce que je pensais auparavant. Mais il faut d'abord savoir ce que dit la Torah et non pas ce que je voudrais qu'elle dise. D'accord ? C'est très important, ça. D'accord ? On peut voir ça dans énormément de cas. Énormément de cas, je me demande si je dois vous donner déjà des exemples ou pas. Non, je vous en donnerai pas. Bon. Quelle règle encore nous avons ? Eh bien, je vais vous donner une quatrième règle, que je pense être vraie, mais si vous voulez, d'un certain point de vue, c'est une option personnelle. Je pense que celui qui a raison dans l'interprétation de la Torah, c'est Rashi. Il y a beaucoup de commentateurs. Mais enfin, de mon expérience personnelle, de mon étude de plusieurs années, j'ai le sentiment que celui qui a percé le sens véritable du texte, c'est Rashi, et je suis prêt à relever le défi et à le prouver si c'est nécessaire. À part ça, je vous demanderai, si vous le voulez bien, d'ouvrir le texte. Ah, je suis très casse-pied. Très souvent, quand je demande de voir un texte, je demande de le voir. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites « Regardez au chapitre Yud-Bet, verset Kaf-Gimel », ça veut dire qu'il faut feuilleter et chercher le chapitre Yud-Bet, verset Kaf-Gimel. D'accord ? Je sais que c'est très pénible. Souvent, on n'a pas cette habitude, quand on vient, je ne sais pas de quel milieu culturel, de se dire « Il faut chercher le verset ». Mais c'est très important de chercher le verset. Rappelez-vous, le numéro du chapitre est écrit en haut de la page, au milieu. Par exemple, là, le chapitre Aleph, là, vous l'avez devant les yeux, n'est-ce pas ? Où est-ce que c'est écrit que c'est le chapitre Aleph ? Eh bien, c'est écrit en haut de la page. Vous voyez écrit Bereshit, Aleph, Bereshit ? Ben, le Aleph qui se trouve entre les deux mots Bereshit signifie que c'est le chapitre Aleph. D'accord ? Le numéro du verset est au début du verset. Vous avez que le verset Aleph et après le verset Bet. Rashi a raison. Je n'ai pas vraiment de preuves. Mais enfin, ça répond à beaucoup de questions si on se donne la peine de comprendre ce que dit Rashi. Maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, que vous ouvriez au chapitre Aleph, donc au verset Aleph, dans Rashi. Vous voyez que le premier paragraphe de Rashi commence par le mot Bereshit. Vous voyez ou pas ? Le deuxième paragraphe commence par Bereshit Bara. Eh bien, je voudrais étudier avec vous une interprétation de ce texte de Rashi que donnait le Rav Rotenberg, Zichrono Livracha, transmise par Manitou, Zichrono Livracha. Regardez, Bereshit Bara, que dit Rashi? En ha-mikra ha-ze omer, ella dirshuni. Kemo, she-amru rabotenu, Zichronam Livracha, bishvi la Torah, she-nikret Reshit Darko, ou bishvi l'Israël, she-nikreu Reshit Tevuato. Nous allons donner une première traduction de ce texte de Rashi. En amikra azé omer, ela dorsheni. Ce verset ne dit qu'une seule chose, interprète-moi. C'est bizarre. Le verset demande à être interprété. C'est que Rashi d'habitude enseigne le pshat. Le pshat, c'est le sens le plus simple. Et là, il y a un autre sens plus compliqué qui est le drash. Et là, Rashi dit quelque chose d'exceptionnel. Ce verset ne doit pas être compris comme un pshat, il doit d'emblée être compris comme un drash. Ah bon? Pourquoi est-ce que ce verset doit être compris comme un drash? Tout simplement parce que le mot Bereshit est incompréhensible. Comment est-ce que vous traduiriez en français Bereshit? Au début. Eh bien non. Exactement. Le mot Bereshit en français veut dire au début de, au commencement de. C'est ce qu'on appelle en grammaire hébraïque une smichut. Or, il n'est pas écrit au commencement de quoi? C'est comme s'il était dit au commencement de, Dieu créa le ciel et la terre. Il manque quelque chose, il y a un mot qui manque. Si on voulait dire au commencement tout court, on devrait dire Bahatrala. Comme ça qu'on dit en hébreu, ou bien Bareshit. Bareshit, Bara Elohim. Mais quand on dit Bereshit, ça veut dire au commencement de, et donc il manque quelque chose. C'est donc, d'après Rashi, que ce verset a été écrit a priori pour être interprété. Ena mikra zeomer ela dirshuni. Et comment le comprendre? Eh bien, il faut comprendre, Bishvil, que Moshe Amrou Rabotenu, comme on dit nos maîtres, que leur souvenir soit une bénédiction, Bishvil HaTorah, en faveur de la Torah, Shenikret Reshit Darko, qui est appelé dans le livre de Michelet, le début de son cheminement. Ou Bishvil Israël, et pour Israël, Shenikreu, qui sont appelés dans Jérémie chapitre 7, Reshit Tevuato, le commencement de sa récolte. Alors, comment est-ce que Rashi a compris le verset? Bereshit bara Elohim, c'est en faveur de Reshit que Elohim a créé. Et c'est quoi le Reshit? C'est soit la Torah, soit Israël. Et alors, ça nous emmène très loin. C'est-à-dire, comment? Mais la Torah n'a pas encore été donnée. Israël n'est pas encore apparu dans l'histoire. Alors, comment comprendre un verset qui parle d'Israël ou de la Torah, alors que ni Israël ni la Torah ne sont apparus dans l'histoire? Ça cloche. Mais en tout cas, c'est comme ça que Rashi a compris. Bereshit, bara Elohim, c'est-à-dire que le verset ne nous dit pas que le monde a été créé, il nous dit pourquoi est-ce qu'il a été créé. Ça veut donc dire que le chapitre que nous allons étudier n'est pas une description de la création du monde. Si vous demandez à quelqu'un, avec un peu de culture, de quoi parle le premier chapitre de la Genèse, eh bien il dira, eh bien le premier chapitre de la Genèse nous décrit la création du monde. Que dit Rashi? Pas du tout. Mais Nenni? Pas du tout. Le premier chapitre de la Torah nous explique pourquoi le monde a été créé. Conclusion, il n'y a aucun intérêt à avoir une lecture scientifique, par exemple, du premier chapitre. La science, elle nous décrit comment est-ce que le monde a été créé, mais la Torah ne s'occupe pas du tout de ça. La Torah nous explique le pourquoi, la signification. Donc vous voyez que dès le départ, toutes les conférences embrouillées qui essayent de donner une interprétation scientifique du problème